Jondot, qui est professeur de littérature anglaise à l'université de Toulouse-Mirail, qui a travaillé sur Virginia Woolf en thèse de troisième cycle. Et à l'époque, comme pour moi, on avait posé deux thèses, la thèse de troisième cycle et la thèse de doctorat d'État. Le doctorat d'État sur les écrivains d'écrivains d'écriture anglaise au Proche-Orient. On a bien entendu écrit plusieurs articles sur ces auteurs arabes, et elle va nous présenter donc une communication sur des graffitis du Caire encore, janvier 2012.
En fait, si je voulais visiter mars 2019, parce que quand j'ai rencontré le sujet il y a très longtemps, ça avait... je suis retournée au Caire depuis. Donc
ça a été complété depuis.
Voilà. Et après l'excellente introduction de Sarah, donc je vais essayer moi d'être d'entrer un tout petit peu plus dans le détail de ces graffitis. J'ai quitté le Caire en décembre 2010, rien ne laissait supposer le soulèvement de janvier 2011, ou plutôt tout le laissait supposer, mais depuis tellement longtemps que plus personne n'y croyait ni osait l'espérer. Les murs poussiérés du Caire proposaient la vision d'une Égypte immuable, stéréotypée, sclérosée, Égypte éternelle, essentiellement rurale, où les héros de l'épopée arabe côtoyaient un Moubarak épargné par le passage du temps. Un mois et demi plus tard, en janvier 2011, lors de mon voyage suivant, la physionomie des murs de la ville avait totalement changé. L'inespéré, le temps attendu s'était produit. La révolution du 25 janvier était passée par là. En février 2011, les murs explosaient de couleurs, de dessins spontanés, de signes d'une jeunesse qui avait réussi là où leurs aînés avaient échoué. Et Adaf Souef, la romancière égyptienne, dans son livre qui est paru peu de temps après la Révolution, qui n'est pas un roman, qui est plutôt un livre de témoignage, donc Cairo, My City, Our Revolution, montre bien comment les jeunes ont accompli ce que les générations précédentes avaient essayé en vain de faire pendant des décennies. Donc, une nouvelle génération décomplexée de l'Égypte libérée, une nouvelle représentation, décomplexée de l'Égypte libérée se donnait à voir, surprenante, dans son mélange d'inédits et de rappropriation de thèmes conventionnels. Donc, on va retrouver un certain nombre de choses. Voilà, donc, avant, après, comment les clubs de football étaient représentés avant et après. Nefertiti à différents moments, la télévision, la sacro-sainte télévision qui maintenant n'est plus tout à fait aussi respectable. Mais ceci non sans ambiguïté, car selon le lieu où ces représentations murales se trouvaient, on pressentait des tentatives d'une récupération qui fut confirmée quelques mois plus tard. Les inscriptions murales que je vais vous présenter proviennent presque toutes de trois sites spécifiques, donc la rue Mohamed Sarah a parlé qui longe le mur de l'Université américaine du Caire et qui débouche sur la place Tahrir et ses proches environs, les murs de l'école des Beaux-Arts à Zamalek et enfin les abords du stade de football à Al. Inattendu, cette appropriation des murs du Caire par la foule des manifestants dans une Égypte où régnait la censure imposée par le régime depuis plusieurs décennies. L'expression spontanée, désordonnée des premiers jours, métaphore d'un soulèvement peu structuré, témoignent d'une prise de parole par des sujets assumant pleinement leur parole, puisqu'ils n'hésitent plus à signer de leur nom. Si les groupes d'artistes ou graffeurs signent sous des pseudonymes, beaucoup beaucoup d'Égyptiens ont signé de leur nom les premiers temps. La peur, si elle subsiste devant la brutalité de la répression, va rapidement devenir l'arme des manifestants qui menacent le régime de chaos et d'explosion de violence si leurs demandes ne sont pas entendues. Les signatures correspondent à des visages qui n'ont plus rien à voir avec les représentations hiératiques précédentes. Mélange de jeunes gens des deux sexes, d'observateurs attentifs comme Andala, l'éternel enfant palestinien, tous portant haut les couleurs de l'Égypte, tous composant cette nouvelle Égypte. C'est d'ailleurs dans leur langue que s'expriment les premières revendications, la langue des réseaux sociaux, faite pour communiquer vite, langue qui ose les emprunts, et se libère du poids de la langue arabe classique et de ses codes de translittération, comme on peut le voir, tous ces nouveaux codes de translittération utilisés dans les réseaux sociaux. L'arabe dialectal égyptien est privilégié la plupart du temps. Le choix de la langue dépend du public visé par les messages inscrits sur les murs. L'image d'une Égypte moderne libérée où règne l'égalité entre les communautés et les sexes est plutôt dirigée vers l'étranger, alors que les messages mettant en garde le régime ou le menaçant de chaos sont en arabe. D'autre part, certains codes internationaux spécifiques, comme celui des ultras du football, reprennent des acronymes reconnus dans le monde entier, comme ce ACAB, All Cops Are Bastards, tous les flics sont des salauds. Sur le mur de l'école des Beaux-Arts, on retrouve les mêmes motifs, les artistes signent et assument leurs revendications et montrent des visages de jeunes gens et leurs moyens de, leurs moyens de communication. Cependant, leur représentation de l'Égypte idéale est directement inspirée du bas-relief du club des officiers gardes-frontières à Dorutla. Donc on voit une certaine ambiguïté dans ce, quand on retrouve ces motifs, quand on regarde dans le détail et sur plusieurs de ces peintures murales, qui datent là de, donc de février 2011. On retrouve effectivement ces choses extrêmement officielles. Donc, c'est le mur d'école des Beaux-Arts, donc on peut se poser un certain nombre de questions. Donc ces premières peintures murales ont été blanchies puis remplacées par de nouvelles, reprenant les mêmes motifs dans l'esprit de désillusion qui s'était installé en septembre 2011. Elles furent ensuite recouvertes par une série de mosaïques qui désormais représentent les grandes étapes de l'histoire de l'art et des traditions égyptiennes dans le plus pur style habituel. Donc cette évolution maîtrisée signale une certaine récupération de l'art de la rue que des galeries d'art ont, dès les premières semaines, commencé à exposer. Ailleurs dans la ville, les graffitis ou peintures murales évoluent selon une dynamique désordonnée, ajout, bifure, appropriation d'un thème ou motif, ce qui n'empêche pas des pans entiers de murs d'être effacés. Et on assistait aussi à une véritable explosion des inscriptions et graffitis jusqu'à ces gigantesques pièces dans lesquelles l'image importe sur l'écrit, mais où la superposition des messages est toujours de règle. Donc vous retrouvez les fameuses pleureuses que vous avez vues tout à l'heure. Si jeunesse et contemporanéité dominent dans la représentation de l'Égypte qui cherche à émerger de la révolution, des motifs sortis des révoltes de Hourabi et de Saad Zahloul sont plus inattendus. Gamal Abdel Nasser disait de cette époque où les colonialistes et leurs collaborateurs pensaient que tout était calme, qu'elle fut une des plus fertiles de l'histoire de l'Égypte. Un grand examen du moi eut lieu ainsi qu'un grand rechargement d'énergie pour préparer une nouvelle renaissance. De nombreuses revendications de cette époque sont toujours d'actualité et la révolution du 25 janvier 2011, dans ses premiers jours, a semblé les réaliser. Une romancière égyptienne, Fawzia Assad, a récemment écrit une nouvelle intitulée « Renaissance 1919-2011 sur la place Tahrir », dans laquelle elle met en scène un personnage qui attendait les promesses des jours fous de 1919 et attendait de voir le peuple se soulever. Cette période avait déjà inspiré d'autres romanciers égyptiens, et non des moindres, Naguib Mahfouz, dans le premier tome de sa trilogie, et Tawfiq al-Hakim, dans The Return of the Spirit. Ce dernier vient d'être d'ailleurs traduit en anglais par les presses de l'Université américaine du Caire. Et il est frappant de relire ce roman au regard des événements de 2011. Malheureusement, je n'ai pas le temps de revoir la citation en détail, mais on voit que tout ce qu'on a pu dire sur le début en janvier de 2011 apparaît ici dans cette citation que je tiens à votre disposition si on a un peu de temps après. Donc l'Égypte de la période entre la révolte d'Ahmed Rami et celle de Saad Zahloul sous domination britannique vécut un sursaut de patriotisme et de nationalisme. La mainmise étrangère était un frein au développement économique et intellectuel du pays, et la grandeur de l'Égypte était reléguée au niveau de son pays. La liberté d'expression était sans cesse menacée par des lois d'exception, et les clivages, entre autres religieux, étaient instrumentalisés par les Occidentaux. Le pays était en proie à un immense sentiment d'humiliation, les nationalistes demandaient une restructuration interne du pays, l'élaboration d'une nouvelle constitution, des élections libres, ainsi que des moyens de faire du peuple égyptien des citoyens capables de gérer leur pays eux-mêmes. C'est à cette période que furent ouvertes, entre autres, l'Université du Caire et l'École des Beaux-Arts. Donc, Mahmoud Mourtar fut l'un des premiers diplômés. On a vu la statue de Saad Zahloul qu'on lui doit. Cette période a vu, dans les termes de Jacques Berck, une nation en cours de naissance révolutionnaire. C'est à ce moment que s'est formé le nationalisme égyptien moderne, À l'exception de Orabi, Fela par ses origines, c'est surtout parmi les classes éduquées urbaines, professions libérales et étudiants que se sont élaborées les idées nationalistes. Le port du tarbouche était leur signe distinctif, tarbouche qui est reparu dans les pièces murales de février 2011. Si la révolte de Orabi manqua de structure et conduisit à l'occupation britannique, elle est pourtant considérée comme l'un des premiers mouvements nationalistes du Moyen-Orient. Orabi s'autoproclama al-Misri, légitime, affirmation d'une égyptianité revendiquée au premier jour de la révolution en 2011. C'est aussi pour cette révolution d'Orabi que fut employé pour la première fois le mot Faoula, révolution dans le sens que nous le connaissons aujourd'hui et qu'on voit apparaître décliné sous toutes les formes sur le monde. C'est Moussa Kemal qui fonda le parti nationaliste égyptien en 1907. Et il est cité parmi les premiers graffitis, ça date de février 2011, la fameuse citation « Maintenant, si je n'étais pas égyptien, j'aurais voulu être égyptien » qui était réutilisée pour la traduction du livre d'Ovald Asfani, dont le titre égyptien n'a strictement rien à voir avec ça, ni d'ailleurs le titre anglais. Fierté et dignité, signifiant récurrent dans les premiers jours de la révolution du 25 janvier, ont été mis à l'ordre du jour par Ahmed Fethi Sahri, le frère de Saad, qui avait traduit en arabe le contrat social de Rousseau pour faire prendre conscience à ses contemporains de la place de l'individu dans la société et leur droit à la liberté en tant qu'individu et en tant que nation. C'est avec Saad Zahloul et sa révolte contre les Britanniques en 1919 qu'une véritable unité nationale se manifesta au cri de « Vive l'Égypte ». Ce fut aussi la première fois que des femmes manifestèrent dans la rue et que le drapeau de l'unité nationale apparut, ce signe d'unité unissant croix et croissant qui était l'un des signes distinctifs des premiers temps de la Révolution. On le voit encore timidement apparaître en février 2013. À l'époque contemporaine, on retrouve donc les mêmes rivages, le même sentiment d'humiliation et la coupure entre le peuple et le gouvernement. Et ce gouvernement avait d'ailleurs atteint un tel degré que le régime en était venu à être considéré comme un occupant interne, exploitant le pays pour son propre compte. Donc les Égyptiens de 2011, combattant pour se libérer de l'emprise d'un régime qui les étrangle, de la même façon que les occupants, qui les étrangle autant que les occupants britanniques et les Ottomans avant eux, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Il existe donc de nombreuses similitudes entre ces deux époques, et il n'est guère surprenant de voir les thèmes ou les slogans du tournant du XXe siècle réapparaître dans les slogans de 2011. Les premiers nationalistes ont également eu à cœur de se donner les moyens de transmettre leur message. Si leur époque a vu un essor de la presse, elle fut aussi une époque où de nombreux penseurs s'occupèrent de moderniser la langue. Ahmad Lutfi Al-Sayed fut l'un des artisans de cette modernisation, qui s'employait à réduire l'écart entre la langue écrite et la langue parlée, et qui n'hésita pas à introduire des mots et des expressions européens. C'est la presse qui servit de laboratoire à l'innovation linguistique à cette époque, afin que la langue devienne un instrument apte à transmettre l'information et les idées nouvelles, et l'utilisation de la langue dialectale est le signe d'une identité proprement égyptienne. Alors on assiste aujourd'hui évidemment à ce même renouvellement de la langue, parallèlement au développement de nouveaux moyens de communication et au besoin de contourner les médias officiels. C'est aussi en 1907, en pleine lutte pour l'indépendance, que fut créé le club national, le Nadi Wataini, qui devint plus tard le club Al-Ali, le club de football, donc le national. Donc ce club, conçu pour lutter contre l'occupation britannique, était ouvert aux étudiants égyptiens qui pouvaient s'y réunir. Il faisait appel à des joueurs locaux. Alors les ultras de Al-Ali, comme on va le voir tout à l'heure, connus sous le sigle UA07, ont joué un rôle important donc, dans les événements, en particulier depuis novembre 2011. Ces ultras ont imposé leur marque sur les murs à mesure que la révolution, d'abord voulue pacifique, a sombré dans la violence. Leur empreinte est visible dans l'évolution de plusieurs motifs récurrents. Dès les premiers jours, donc, la Khamsa, ou Ban Fatima, main protectrice traditionnellement appliquée sur les murs des maisons, a été représentée sous les couleurs de l'Égypte, avec cette main aux couleurs du drapeau. Puis le sentiment de victoire, avec le départ rapide de Moubarak, a transformé la main en poing, qui rappelle le logo du mouvement du 6 avril, qui est un rôle précurseur dans le déclenchement de la révolution. Le pochoir de ce logo continue à apparaître régulièrement d'ailleurs sur les murs. Le point s'est ouvert pour former le V de la victoire dans les graffitis en langue étrangère. L'arabe, lui, s'est contenté en bas à gauche d'un graffiti calligraphié et rimé, comme on disait tout à l'heure. Avec la violence, des mains ensanglantées sont apparues. Les mains rouges accompagnant les noirs au milieu des graffitis célébrant l'amour de l'Égypte libre et digne passent d'abord relativement inaperçues comme mains ensanglantées. Mais rapidement, seules les mains sanglantes, blessures de la Révolution, sont représentées parallèlement à la prolifération des portraits des victimes martyrs. La représentation de la main change radicalement Donc change radicalement avec l'arrivée sur la scène graphique des ultras qui se proclament protecteurs de la Révolution en mettant au service des manifestants leur maîtrise des affrontements avec la police et en organisant des transports de blessés. La main donc se transforme en doigt d'honneur, brandi en signe de défiance à la face du régime. La violence se généralisant, violence physique mais aussi idéologique, c'est une main qui crie, qui couvre les murs, la voix des manifestants n'étant pas entendue, c'est leur corps qui prend le relais. La représentation des victimes, donc des martyrs, suit le même schéma et illustre cet envahissement de l'espace mural par le corps, corps vivant plutôt que corps souffrant, ce qui est un message fort envers ceux qui perpétuent des actes de violence à l'encontre des manifestants. Le corps souffrant a d'abord été représenté avec des manifestants éborgnés par les tirs de gaz lacrymogène qui sont repris de façon ironique avec la Mona Lisa. Le corps mort offert par la mère, figure moderne de la Pietà, ou accompagné par les pleureuses inspirées des tombes antiques, a cédé la place à des visages jeunes et vivants tirés de photos d'identité. Les premières mentions des victimes, immédiatement proclamées martyrs, sont verbales. Ça, c'était en février 2011. Les inscriptions ou les coulures de peinture rouge représentent le sang versé occupent un mur de la rue Mohamed Mahmoud, alors que la place Tahrir est renommée place des martyrs, comme on le voit en bas. À la même époque, la station Moubarak, qui est vers la gare centrale, a été également rebaptisée martyr, Charal. Les premiers portraits qui sont réalisés par Ganzir sont assez réalistes, mais les couleurs sont effectivement symboliques. Le rouge, le sang versé, y domine. Alors, le nom et la mention Charal, martyr, sont systématiquement inscrits en regard du portrait, inscrivant le martyr simultanément dans l'ordre symbolique et dans l'ordre imaginaire. Ensuite, au portrait des martyrs, le plus souvent emblématique, est accolée la mention Kulna, nous sommes tous, en référence au proto-martyr Khaled Saïd, Kulna, qui reprend le slogan nous sommes tous Khaled Saïd, qui fut l'un des premiers instruments traduisant des manifestants. Il fonctionne comme une invitation à s'identifier aux martyrs. Les portraits de martyrs ont ensuite gagné en taille et en couleur voyante, alors que le nombre des morts parmi les ultras augmentait et que ces derniers, privés de stade, trouvaient un exutoire dans la création artistique. Malgré l'excès de la représentation, ressurgit le désir d'unité nationale avec l'adjonction d'ailes inspirées des icônes coptes et de citations coraniques qui ont une portée consolatrice, mais rappellent surtout à leur devoir des dirigeants qui prétendent mettre la loi coranique en œuvre, une manière de les mettre en face de leur propre contradiction. À nouveau, le désir d'unité apparaît lorsque le martyr chrétien et le martyr musulman embrassent une foule d'autres martyrs, et le massacre de Port Saïd, qui fit 74 martyrs parmi les supporters du club Al Ahly, a causé une explosion de portraits de martyrs. Autour du club, avant le deuxième verdict qui a été donné le 9 mars 2013, les 74 portraits harmonisés ont été peints autour du stade selon un modèle inspiré de Banksy. Alors Banksy l'utilisait pour représenter Che Guevara sur le parapet d'un pont londonien, c'est ce qu'on voit en bas. Les martyrs donc anonymes sont donc haussés par assimilation au rang d'icône révolutionnaire. Les ultras, avec leur réputation de hooligans, sont donc devenus de manière étonnante des artistes décomplexés qui osent exprimer leur identité avec ses excès et parfois sa vulgarité. De manière totalement inattendue, le discours d'exclusion qui s'exprime ici sur les murs du stade, quand il s'agit de football, cède la place à un discours rassembleur cherchant dans la commémoration et la célébration de leur martyr à retrouver quelque chose de l'esprit des premiers jours. D'une auto-représentation qui se voulait agressive, ils passent à une représentation policée de leur martyr et bénéficient d'une image positive qui rend à ces ultras marginalisés une place à part entière dans la société idéale de Target. Les artistes issus de la révolution du 25 janvier ont su défier le régime, non seulement en signant leurs œuvres, mais aussi de leur corps. L'artiste qui signe Picasso propose une mise en abîme de son travail et, ce faisant, véhicule un message politique. Il met en scène un duel entre artistes et police, entre pinceaux et matraques, entre palettes et boucliers. Malgré la disproportion des forces, l'artiste vêtu aux couleurs de l'Égypte, seul face à la police et au régime aux multiples visages, gagne de l'espace avec son pinceau et ses verres rimés. La mise en abîme a un effet de démultiplication, force accusatrice omniprésente. L'artiste est sur le mur et il est dans la rue. Il est présent avec son corps, son dessin, sa parole, son nom, sa signature. Il occupe l'espace imaginaire et l'espace symbolique face à ceux qui pervertissent ce pouvoir symbolique qui leur a été confié afin de réprimer les aspirations du peuple à la liberté et à la dignité. Ce ne sont que quelques exemples, j'aurais pu en montrer. J'ai à voir une collection de quelque chose comme 5000 graffitis sur l'époque de 2011 jusqu'à maintenant, et ce n'est pas terminé. Donc, quelques exemples de ce que les murs du Caire réservent en ces temps dits révolutionnaires. Des convergences inattendues entre époques différentes, ou encore des convergences entre des groupes d'individus qui apparaissent là où on ne les attendait pas, comme les ultras qu'on n'attendait pas sur les murs en train de représenter des choses qui sont tout à fait consensuelles dans un certain nombre de cas. Le foisonnement créatif n'en a pas fini de faire rebondir images, mots et idées, et d'obliger le passant spectateur ou acteur des événements à se repositionner sans cesse. Et comme on le voit partout sur les murs en ce moment, un fauve le moustache, la révolution.